Merci d'avoir répondu à présent à cette édition de Café Presse pour aujourd'hui. Nous avons invité pour vous des experts, des pratiquants, des personnes qui ont déjà fait et qui continuent à être dans ce monde de ce qu'on appelle les influenceurs. Merci d'être venus nombreux et sans plus tarder, nous allons commencer par la première question que nous allons poser à Philippe Kabeya. Philippe Kabeya qui lui est influenceur digital mais qui a longtemps travaillé également pour plusieurs plateformes et plusieurs campagnes. Il est l'initiateur de Lumumba Lab et il donne également des formations aux jeunes sur les codes, comment coder en informatique. Première question, c'est quoi ce qu'on appelle influenceur? Philippe Kabeya, si on vous posait la question aujourd'hui, si on vous demandait qu'est-ce qu'est un influenceur, si votre grand-mère vous pose la question qu'est-ce qu'est un influenceur, comment vous allez répondre?
Un influenceur digital, c'est quelqu'un qui, par un certain nombre de circonstances ou des faits, a pu atteindre une audience et qui impacte cette audience-là. Et souvent, on cadre un influenceur dans un espace, parce que ça, c'est à la base. Il n'y a pas un influenceur mondial, à la base du terme. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, avec Internet, surtout quand on parle de l'influenceur digital, on ne sait vraiment pas le cadrer, parce que c'est quelqu'un qui a une influence sur des gens qui sont dans des milieux, qui ne sont pas dans son milieu direct. Ça veut dire, je peux être au Congo, mais réussir à avoir un impact sur des gens qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a ça. Et au final, qu'est-ce qui fait la différence d'un influenceur et d'une autre personne? Et c'est ça même qui est un peu drôle, et j'en parlerai plus loin, c'est que l'influenceur, c'est celui qui pousse à la consommation de quelque chose. C'est le mot consommation même dans la définition de l'influenceur. C'est la consommation de quelque chose. Et là vient le problème, il pousse à consommer quoi? Donc tu as une influence sur les gens, mais justement tu les pousses à faire des choses. Donc je peux à la limite dire voici le produit qui doit être consommé et il finit par être consommé. C'est pour ça que vous verrez, même en Afrique, les influenceurs les plus connus sont dans la lifestyle. Lifestyle, c'est, enfin, je mets un peu tout, ceux qui sont dans les vêtements, ceux qui parlent de mode. Les meilleurs blogs, c'est les blogs de mode, les blogs de cuisine, les blogs de la vie, comme ça, un peu tourisme, ils viennent un peu après. Mais c'est pour dire, c'est plus sur du produit que sur des idéaux. Les influenceurs idéaux, ils viennent un tout petit peu après. Et ça, c'est généralement influencé par des circonstances. Je le dirais encore une fois à beaucoup d'influenceurs de temps moderne ou de maintenant. Dès que les élections passeront, il y a beaucoup qui ne seront plus influenceurs. Ça, j'en ai l'expérience par rapport à la technique, par exemple, des sites web. Vous verrez très vite, les sites web actualités et tout ça, politique, ne seront plus aussi forts après les élections. Donc, c'est des influences d'un moment où à un moment, on peut vous identifier. Mais tel, il parle beaucoup de ça. Après, on a envie de le voir parce qu'on a cette culture-là. Mais très vite, c'est souvent sur un produit. L'influenceur a plus d'impact que sur les idéaux. Parce qu'après, on pourra développer là-dessus.
La même question, je la pose également à Arlène. C'est qui un influenceur?
Moi, par rapport à mon cas, c'est plutôt les autres qui m'ont dit que j'étais influenceur. Moi, étant modeste, je ne pensais pas que j'impactais ou influençais les gens. C'est le retour plutôt, le feedback que j'avais dans mes inbox ou parfois même par les commentaires ou les réactions des gens qui te disaient en tout cas... Ce que tu fais ou ce que tu postes, nous on te suit. Et par rapport à ça, j'ai même eu à avoir des résultats concrets, des gens qui se sont ils ont eu à adhérer dans plusieurs associations dans lesquelles nous faisons partie. Donc c'est vrai qu'il faudrait, dans le contexte, un influenceur fait consommer quelque chose, mais moi je vais marteler sur aussi le style de vie. Parce que moi, tout ce que je poste, c'est mon vécu, en fait.
Merci pour votre réponse, mais toujours pour cette question, je la pose aux communicateurs ou aux communicants. Qu'est-ce qu'on appelle un influenceur? Et la question est posée à vous, Eugène Kandolo.
Un influenceur, c'est quelqu'un qui modèle, qui façonne, qui change, en fait, la perception des gens, étant donné que l'opinion publique est malléable et versatile. Donc, il peut s'adapter à un type de discours, à un type de comportement, à un type d'attitude, qui peut développer quelqu'un qu'on appelle influenceur. Et pour me rabattre sur ce que disait Arlène tout à l'heure, j'ai pu déceler qu'il y a deux types d'influenceurs. Les influenceurs qui savent effectivement que j'influence et qui se comportent en tant que tel pour veiller en fait à leur attitude afin de maintenir cette flamme. Parce qu'en fait, on ne peut pas se dire que l'influence est un acquis. Donc on peut influencer aujourd'hui et demain c'est faire être influenceur. Ceux qui sont inconscients, quand on va te le faire savoir ou bien quand tu vas le découvrir, tu vas effectivement te repositionner.
Toujours dans les cas de ces concepts, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contribution dans la salle? Si vous avez une question, vous la posez, vous vous présentez et vous posez votre question.
Moi c'est Joseph de Gaulle, je suis expert en communication. Est-ce que le marketing relationnel a aussi...
La réaction directeur.
D'abord, le marketing relationnel, c'est une branche du marketing. Le marketing relationnel, ce n'est pas en fait une branche, un domaine. C'est une façon de faire dans le marketing. C'est comme un outil dans le marketing. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité avec, je ne sais pas moi, le marketing commercial, dans le sens global du mot, le marketing tout court ou le marketing dans son inclinaison en fait politique. Si on se pose la question sur le source de l'influence, nous verrons que l'influence est le maître mot en fait du leadership. Le leadership a comme radical, a comme soubassement l'influence dans son sens global. Parce qu'en français facile, le leadership c'est la manière d'être leader. Donc, avec deux approches, leadership comme l'art de conduire, qui est très restreint parce qu'il faudrait que tu puisses avoir un poste pour qu'on voie ce leadership, et leadership comme l'art d'influencer. Et ça ne demande pas que tu aies un poste. Que tu aies un poste ou pas, tu influences les gens. Et comment on influence? On influence par la parole, on influence par les actes, on influence par la mode, Kaiser l'a dit tout à l'heure, toute une mode peut modeler la façon de vivre des gens. On influence par la chanson, on peut influencer par l'innovation. Aujourd'hui, nous tous, nous nous arrêtons quand nous sommes sur le boulevard avant de traverser parce qu'il y a un robot roulage que Thérèse Kirongozi a fait. Donc, elle nous influence en fait par son innovation.
Il ne faut pas aussi oublier les influenceurs, il y en a des mauvais. Il y en a pour le mal et pour le bien, mais ça reste un influenceur. C'est comme un leader. Je disais à un ami une fois que Hitler, c'était un bon leader.
Un grand leader, oui.
C'était un grand leader et un bon. Ben Laden, c'était un bon et un grand leader. Maintenant, ça dépend dans quel camp tu es, tu te positionnes par rapport à son type de leadership. C'est la même chose avec les influenceurs. Autant, c'est dangereux. J'ai discuté encore avec des amis qui disaient, mais tiens, il faut qu'un influenceur... disent clairement sa ligne et tout ça, parce qu'effectivement, par moment, on ne sait pas, tu travailles pour qui est derrière toi. L'influence, oui, l'influence est là, mais qui est derrière l'influenceur? Qu'est-ce qui motive cet influenceur-là?
Patient, moi, j'allais rajouter quelque chose par rapport au marketing relationnel, parce que ça devient un grand outil en fait, qui permet la consommation, puisque en fait, les marketeurs ont compris que en soi, les gens consommaient quand il y a une recommandation de quelqu'un qui t'est proche, qui t'est familier. Donc en soi, comme Eugène l'a martelé, je pense que le marketing relationnel reste un outil, un moyen d'atteindre la consommation. Donc pour répondre aux journalistes, au fait, c'est un outil qu'on utilise. Et maintenant, quand ça monte par rapport à une plateforme qui peut être un réseau social, le réseau social aussi reste une plateforme. Donc, il y a un outil qui peut être utilisé de porte à porte, donc le direct marketing. Et quand c'est maintenant utilisé aussi dans un réseau social, ça prend une autre amplification. Donc, c'est ce que j'allais rajouter.
Moi, chez mes amis avec qui on a étudié, j'ai une communauté de 300 personnes. Quand j'ai mis la photo de ma fille, tout le monde like, est-ce que je suis fait, je deviens automatiquement influenceur? Voilà. Ouais. J'ai acheté, je suis à la piscine, je viens de faire ma gym avec des gros biceps et tout le monde met des likes après, je deviens influenceur. Expliquez-moi un tout petit peu. Je commence par.
Comme je disais tout à l'heure, entre influenceur et leader, en fait, c'est presque bonnet blanc, blanc, bonnet. En fait, autant on les dit pour le leadership, il y a deux approches. Une approche qui considère que tout le monde est leader, tout le monde a un leadership d'une façon ou d'une autre. Autant on peut aussi les dire pour l'influence. Mais il y a la deuxième approche du leadership, en fait, qui focalise l'homme sur, effectivement, les degrés d'impact qu'il a. Parce que, en fait, le leadership, c'est une valeur estimable qualitativement et quantitativement. Et par conséquent, la qualité, en fait, du contenu que tu amènes comme stimulus dans l'autre influence, en fait, aussi sur le nombre, en fait, des personnes que tu touches. Et on ne peut pas parler d'influenceur ici dans l'entendement du concept consacré quelqu'un effectivement qui, par des habitudes vérifiées, vues pendant un moment donné, dans un contexte déterminé, influence beaucoup plus de gens, consciemment ou inconsciemment. D'une façon ou d'une autre, nos parents nous influencent, nos frères nous influencent, nos amis nous influencent à peut-être acheter tel type de téléphone ou ne pas acheter tel autre. Mais ici, dans les contextes précis, les concepts consacrés d'influenceur, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont le comportement a été observé pendant une période donnée par rapport à une activité X qu'il est en train de mener et qu'on voit qu'effectivement cela a un impact sur la société et sur un nombre de gens bien déterminés. Donc avant de dire qu'on s'en fout les likes, il faut d'abord en avoir fait. C'est très important. Aujourd'hui, les likes sont un indicateur important pour savoir que quelqu'un effectivement est influence ou pas. Et puis je vais en arriver. Mais cela ne veut pas dire, comme ce que a dit Patience tout à l'heure, c'est exactement la phrase que j'écrivais ce matin, j'ai dit, tous ceux qui font de likes ne sont pas forcément des influenceurs. Parce qu'il faudrait qu'on se demande, ils font des likes sur base de quoi? Il y a quelqu'un qui, depuis qu'il est sur Facebook, 95% de ses activités, c'est des photos qu'il publie. Donc chaque fois, il fait de likes. Les jours qu'il s'hasarde de faire une publication sans photo, il fait 2,5. Donc, on sait voir facilement que cette personne, en réalité, elle n'est pas une influenceur. Donc, c'est juste les gens aiment la photo, la preuve. Nos photos qui sont prises par la couronne ou étoile photo font plus des likes que les photos que nous prenons avec nos propres téléphones. Autant je disais tout à l'heure qu'on est influenceur pendant un temps, ça peut périr. Et rassurez-vous, ton contenu t'est défini, je l'ai dit souvent. Tu peux ne pas décliner ta personnalité vis-à-vis des gens, mais on peut rien qu'en parcourant ton profil Facebook, savoir en fait quel type de personne tu es et savoir te catégoriser. Il y a des gens qui passent sur Facebook en ne partageant que « sais-tu » ou bien les paroles des serviteurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas producteur des messages lui-même. Depuis qu'il est sur Facebook, donc, il est passif. Personne ne peut pas être influenceur. Un influenceur, d'abord, il produit un contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on influence avec son propre contenu. Donc, tu crées ton hashtag, Zotovalili, tu vois que c'est adopté par les gens. Adopté par les gens. L'influence, en fait, c'est des fois même dans des choses subtiles. On n'arrive pas, en fait, à l'imaginer, mais tu vois que ça passe.
Et que d'abord, les influenceurs, c'est aussi la possibilité de publier du contenu original, c'est-à-dire son producteur de contenu par eux-mêmes aussi, et puis cadre plus ou moins leur message. Et il va au-delà même de likes, il parle aussi de partage et également des commentaires, et ça c'est aussi un élément. Alors, puisqu'on parle d'influenceurs digitaux, est-ce qu'on peut avoir une estimation justement en termes de pénétration d'Internet ici? La RDC, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes des terminaux, des devices, on a des gros problèmes ici. Mais finalement, pour exister, il faudra avoir quand même une certaine audience. En RDC maintenant, on a une idée de les pénétrations d'Internet, de gens qui utilisent les taux de pénétration du mobile, parce que finalement, on ne peut pas être influenceur pour 3, 4, 5 personnes. C'est un influenceur pour une audience, pour une communauté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui s'identifient comme influenceurs ont une audience, une communauté? On a parlé tantôt de 4% des taux de pénétration d'Internet en RDC. Est-ce qu'avec ça, on peut dire qu'on peut avoir une vie, ou bien, on va dire, une communauté qui va suivre? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Ça, c'est pour vous.
Donc, voilà, c'est 3,5 déjà le pourcentage, 3,5. 3,8 quand ils sont un peu gentils. Mais ça reste autour de 3,5.
Ça fait
3,5 sur 90 millions, ouais, 80 millions.
Ça fait à peu près combien? 4 millions.
Donc, vous faites web, mais on est quelque chose, quand on gonfle un peu, on est autour de 6 millions. C'est sur 6 millions. Mais je suis certain que impact réel, on est à 4 millions. 4 millions, effectivement. Mais là me vient une notion, j'allais la dire tout à l'heure, et justement, la dame tantôt a posé une question dans ce sens, et même quand vous avez parlé de la photo, c'est, la même notion intervient, c'est de savoir faire la différence entre l'engagement et le like. Dès que vous faites la différence entre l'engagement et le like, vous sortez du nombre de likes. Parce que c'est au-delà de ça, l'engagement va au-delà du like. Et ça, c'est très important. Vous allez voir, par exemple, vous verrez quelqu'un, et ça, c'est sur toutes les pages, hein. Vous verrez une page qui a 100 000 likes, quand il publie, le taux d'engagement est généralement de 10%. Donc, vous aurez 1 000 engagements. sur 100 000 likes. Ça veut dire autour de vous, à la différence, par exemple, vous verrez déjà des influenceurs, je crois qu'Arlène et Jeanne l'ont peut-être remarqué, c'est que généralement, moi, ça m'étonne, j'ai atteint les 5 000 de Facebook. Mais seulement quand je publie quelque chose, la portée de ma publication est de 30 000, 40 000. Justement, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est ce que Jeanne vient de dire, c'est que la dame suivait sans être son amie. Ça, on a beaucoup de gens comme ça là. Et Twitter a résolu ce problème avec ce qu'on appelle les listes. C'est-à-dire, quelqu'un peut te suivre sans être ton ami. Il a le droit en créant des listes. Mais sur Facebook, ça n'existe pas. Alors sur Facebook, on a, je ne sais pas comment on les appelle, il y a une blague. Hein? Non, il y a un mot, ça va me revenir sur Facebook. C'est un peu pour rire ce qu'on appelle ce type de personnes. Mais c'est ces gens qui regardent tes publications, ils ne likent pas. Donc ils regardent. Okay. Parce qu'en fait, à la base, soit il ne veut pas s'afficher comme ton ami, soit il ne t'apprécie pas mais il te suit. Parce que ça peut arriver, ton concurrent peut te suivre, c'est son droit. C'est son droit, mais aussi tu as ce type de personnes. Et tu as ceux aussi qui sont... et qui n'ont pas forcément le like de la page, mais qui vont venir juste, ah ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il peut passer, et il va revenir encore un jour, il dit, ah, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Et tu as ce type de personnes. Donc, très vite, la différence entre un like et un engagement, l'engagement, et c'est la partie du leadership même, l'engagement, c'est à quel moment, j'ai un ami qui l'explique très bien, quand tu vois un général de l'armée, je prends un militaire, il est allé dans un cadre de l'époque chinoise et tout ça, c'est que ce monsieur a des troupes. Il y en a qui, généralement les militaires, on se donne rendez-vous, hein, parfois c'est des sélections, on dit toi, tu vas avec tel. C'est comme ça que ça se passe en fait. Vous allez être guidé par Mamadou, je prends un exemple. Et donc, il y en a qui n'attendent pas le lieu de ralliement. Non, il va venir chez toi à la maison. C'est le général, mais il va venir chez toi à la maison. Quand vous devez aller au point de ralliement, il parle avec ta femme, il parle avec les enfants, il connaît tes problèmes, il discute avec toi. Et ce leader-là, quand vous êtes au fond, avant de partir, même avant de partir, il a laissé un peu d'argent, plus que ce que toi tu n'as laissé, il a discuté avec ta femme en lui promettant, mais tiens, tel cas on va le résoudre. Automatiquement, sur le front, il a été prouvé que sur la ligne de front, l'engagement de ce monsieur est différent de l'engagement du militaire qui a été rejoint sur la ligne de ralliement. Ça veut dire, c'est pour faire la différence de l'engagement, l'engagement dans le leadership, c'est ce qu'on dit, à quel moment celui qui te suit est prêt à mourir pour toi, s'identifie, pleure pour ta peine. Donc comment, et l'engagement devient un peu ça, l'engagement c'est, vous avez tous vu ça quand on organise un événement, tu as les gens qui disent on va venir. Tous les likes, ça c'est le like. 500 personnes ont dit vont participer, mais le jour de l'événement tu as 4 personnes. Les 4, c'est ceux-là qui sont engagés. Maintenant, après, on peut dire qu'il y en a qui sont perdus sur la ligne parce qu'ils ont eu un problème entre-temps et tout ça. Mais l'engagement, c'est vraiment des gens qui te suivent, qui s'identifient. C'est même pour ça qu'on conseille aux gens de ne jamais acheter les likes. Parce que faites très attention, Facebook lui-même, dans son concept, dans son algorithme, a prévu que les gens qui ont été achetés ne sont pas des gens qui sont venus par engagement. L'engagement, c'est quelqu'un qui a suivi comme ça. Facebook le sait. Que cette personne-là lisait et puis a liké. Et son engagement est différent. Donc tu as plus d'impact sur les gens qui sont dans l'engagement que sur les gens que tu as achetés ou que, comme parfois on le fait souvent, Massa Oko liké. C'est vraiment différent. Massa partagé. Non. Le partage automatique des gens est vraiment différent du partage qui vient lorsque la personne se sent touchée. Et ça, nous, on le voit même par des posts. Et Jeanne le disait aussi, moi ça m'est arrivé de publier un post sur quelqu'un qui m'a énervé, ça arrive de publier un post sur quelque chose, mais tu sens l'engagement est différent sur ce type de post. Et même sur ce type de post, tu vas remarquer les types d'engagement. Ça veut dire derrière moi j'ai des gens qui eux, Kaiser, Torobo Mahe, voilà, eux ils sont là. Mais ils sont un pourcentage, c'est des 4, perception combo Mahe. Ces gens-là existent aussi. Il y a aussi ceux qui ne vont pas liker, mais qui vont t'écrire en off pour te dire « Non, le mot la plane. » Donc, il y a même des types d'engagement sur ceux qui te suivent qui font la petite différence. Oui, effectivement, pour aller au-delà, c'est que l'engagement sort de Facebook. Donc, quand tu oublies le contexte congolais du fonctionnement, moi, j'oublie jamais le bouche à oreille. Il ne faut jamais oublier ça dans le marketing même normal. C'est-à-dire, ce que je fais, par exemple, avec les enfants, je rencontre des parents qui n'ont pas de compte Facebook, qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas de WhatsApp, mais qui savent ce qu'on fait et qui viennent nous voir pour nous dire est-ce qu'on peut ramener nos enfants. Ces gens-là, ça va au-delà. Et donc, il y a quelques jours, j'étais à Paris, on avait la réunion des influenceurs africains, francophones. Et effectivement, j'avais des influenceurs qui étaient dans le même palier, considérés comme toi, mais qui avaient des millions de vues. Il y a Christian Bella, que vous connaissez peut-être pas, le frère de Zoé Bella, qui est en Tanzanie. Quand il publie un clip, il a automatiquement 100 millions de vues ou 10 millions de vues. Mais il est dans quel contexte? Il est en Tanzanie. Mais Christian Bella n'a pas l'influence de Fali. Tout autant, tu mettras Christian Bella en public comme ça, Fali même en Tanzanie aura plus. Et donc, quelque part, l'influence qui quitte ta sphère web sort de là pour aller dans la vie. Et c'est l'influence, en fait, c'est même la meilleure façon, c'est la partie, je dirais, le graal de l'influenceur.
Déjà, le Congolais n'aime pas trop lire. Quand tu as un blog, tu as du mal à le vendre, si on prend le terme du marketing, le vendre, parce que les gens n'aiment pas trop lire, ils sont plutôt visuels que lecture. Plus on écrit, moins les gens réagissent. Et comme on le dit, c'est ta personne que tu communiques par l'outil de la plateforme réseau.
Je m'appelle Laurent Cadeli, je suis communiste comme mon ami dit à l'IGN. Pour moi, l'influence, ça match avec le leadership. C'est-à-dire, un leader est automatiquement un influenceur. Mais le leadership, c'est comme un potentiel que chacun a. Il faut en fait le reconnaître. Et quand vous reconnaissez ce potentiel-là, vous devenez leader et vous influencez. Mais quand vous ne l'avez pas, vous pouvez influencer sans pourtant vous rendre compte. C'est là où je reviens avec madame, avec Eugène, là où il disait qu'il y avait deux types de leaders, conscients et inconscients. Ceux qui sont conscients, c'est ceux qui sont conscients de leur potentiel. Et ceux qui ne le sont pas, ils influencent, mais ils ne sont pas conscients. Mais par contre, excusez-moi pour mon ignorance, mais quand je dis les thèmes qui parlent d'un influenceur, je m'attendais à ce que Eugène puisse en fait faire le parallélisme de ce que.
Philippe a dit,
c'est-à-dire la transformation de l'influence sociale sur les terrains. Comme lui est politique, il pouvait plus aborder sur les contextes du terrain. C'est-à-dire comment.
On a la question qui va suivre. Quel rôle?
Et voilà. Donc,
merci. On va prendre.
Je m'appelle Agnès Tartin, je suis du bureau pour l'intégration du droit. Vous avez parlé de ce qu'est un influenceur. Maintenant, lorsqu'on est influenceur, on n'est pas forcément un professionnel, c'est-à-dire institutionnel ou institutionnel. Souvent, des institutions comme le Parlement ou même la Commission ou le bureau conjoint ont une présence sur la toile pour diffuser leur message. Et il y a des gens qui sont formés pour calibrer ce message-là en fonction du public. Bon, en tant qu'influenceur, je dirais artisanal, qui fait son travail avec des types de droits, comment est-ce qu'on peut d'abord mettre en place un message, concevoir son message sur la toile, concevoir son message pour qu'il soit réceptif? Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté au public, du public, que le public congolais a à lire des longs messages ou à écouter de longues vidéos. Première chose. Et quelles sont les responsabilités? Peut-être que cela sera abordé dans la deuxième partie. Les responsabilités de l'influenceur ou de l'aspirant à l'influence sur le respect, bon, je vais utiliser
des droits de l'homme.
Voilà. Des droits des autres. Parce que ce n'est pas un journaliste qui va faire le check de l'information pour pouvoir, par exemple, utiliser les canons de la communication et réagir. Et comment est-ce que, justement, cet influenceur-là, quel est son rôle à jouer dans l'expression de sa liberté? Parce qu'aussi, lui-là, il exerce une liberté d'accès à l'information, d'accès à Internet, etc. Comment est-ce que vous voyez, dans le contexte actuel, le rôle de ces influenceurs-là? Quels outils ils peuvent utiliser? Parce qu'on est sûr que souvent, quand ça commence à chauffer, Internet est coupé. Pour quitter cette plateforme d'Internet, ou bien pour l'utiliser autrement.
Mais pour que ces choses soient un peu plus concrètes, palpables, vous-même, si on vous posait la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous considérez comme influenceurs digitaux? Vous donnez 5 noms.
L'activité parle des influenceurs digitaux. Donc c'est très important. Mm-hmm. On a bien précisé que c'est des influenceurs digitaux. Mais si on veut parler du concept influenceur, un community manager n'est pas un influenceur. Il faut faire attention. Quelqu'un qui est formé pour gérer le site de BCBDH, ce n'est pas un influenceur. Celui qui publie derrière la page Facebook de BCBDH, ce n'est pas un influenceur. Il faudra qu'on puisse effectivement faire la part des choses. Et pour parler de ça, je peux dire, je disais ici qu'on ne va pas tricher. Il y a des gens qui influencent des gens sur le digital. Je peux parler de Philippe, je peux parler de Harley. Je peux parler des patients, je peux parler de Steve, je peux parler de Patrick Pacons.
Pour les cinq noms, je dirais Larissa Diakanois, Arsène Tounassi, je dirais Bonnie Maya, je dirais Patrick Koussou, Jean-Félix Mouema.
Pourquoi ces gens?
Ils sont dans le social. Tout ce qui est entrepreneuriat social me touche, surtout ceux qui sont dans le changement de mentalité. Donc ils communiquent pour... en retour avoir un certain comportement ou un certain changement positif.
Mais sinon, il y a deux choses. Il y a vraiment, parce que je sais que je suis là aussi pour ma dimension technique, avant le côté influenceur. Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais insister qui sont sortis des questions ou des préoccupations, et je vais le faire rapidement avant de parler des noms. Dans le contexte actuel, influencer devient même dangereux. Dans le contexte actuel, un influenceur, c'est quelque part, ça serait des hommes à abattre. Parce que simplement, moi, quand je regarde à abattre, ça dépend de qui veut les abattre et qui veut acheter. Donc, mais il y a des inconvénients à cela. On l'a vu avec les musiciens congolais. Hein. Le fait qu'ils soient influenceurs les a tués. Mm-hmm. Simplement, la musique congolaise est morte aujourd'hui parce que les musiciens étaient influenceurs. Considérés en tout cas influenceurs par la diaspora. Donc, être influenceur peut te tuer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, dans certains cas. Et donc... Quelque part, je me dis, dans le contexte actuel ou aujourd'hui, dans le contexte politique, dans le contexte de la crise, on a justement besoin d'un leader. Ces jeunes qui ont des gens derrière, qui ont des gens qui suivent, ont un rôle à jouer.
Et c'est déjà la deuxième partie, la question la plus importante. On sait maintenant qui est influenceur digital, quel outil il utilise, dans quel cadre il fonctionne. Et la question que nous posons maintenant à nos panélistes, quel peut être aujourd'hui les rôles d'un influenceur digital dans un contexte comme celui-ci? Alors on va poser d'abord la question à Philippe Kabea et ensuite la question, la même, on la pose à Eugène Candolo et pour terminer, nous posons la même question à Arlène Agnero.
Déjà quand on est influenceur, c'est-à-dire il y a des adhésions, il y a des engagements que les gens font, que ça soit sur la toile ou bien dans la vie réelle. Alors, comme nous sommes sur la toile, tu as des opinions, parce qu'il faut savoir qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui a sang et eau, qui a opinion, qui n'est pas un robot, qui a des opinions, des croyances. Et par conséquent, en fait, chaque position, chaque analyse qu'il fait peut avoir les substrats, en fait, de ce qu'il est, de d'où il vient et de ce en quoi il croit. Et ça, c'est très, très important. Alors, dans le contexte, parce que déjà, je riais, on dit dans les contextes de tension, c'est comme si... c'est maintenant qu'on est en contexte de tension. C'est depuis que nous avons grandi que notre pays est toujours en contexte de tension et de crise. Alors finalement, on ne sait pas à quel moment précis on doit adopter tel ou tel autre.
Ce moment-là.
Oui, ce moment-là. Ici, c'est
le moment de la synco.
Exactement. C'est le moment précis. Exactement. En ce moment précis, pour ce qui est de ma part, je disais que l'influenceur doit être celui qui n'attise pas les feux. C'est très important. Nous sommes dans un contexte très fragile. À tout moment, en fait, il peut y avoir débordement. Alors, quand on est influenceur, on doit être investi de cette responsabilité et se dire qu'il faut que je fasse attention. Nous avons dit que nous avons quitté l'étape d'influenceur inconscient à influenceur conscient. Dès lors que tu es conscient de ce que tu peux faire, de ce que peut faire un bout de phrase seulement que tu publies, donc tu dois vraiment y veiller. Mais après, tu dois y veiller avec responsabilité. Tu vas rester équilibré, mais pas lâche. Parce qu'en fait, il ne faut pas brader ses convictions profondes parce que juste on veut être modéré. C'est vrai qu'il faut prendre en compte le fait, ce que Kaiser a dit, c'est très important. Les influenceurs sont des hommes à battre, surtout quand tu es quelqu'un qui modèle les opinions politiques. Et rassurez-vous, sur la toile, il y a aussi des agents des renseignements, il y a des gens qui observent comme les autres, que tu peux influencer aussi. Donc ils se sont influencés par toi, mais entre temps, il a un rôle à jouer. Mais au-delà de la responsabilité, tu ne dois pas devenir lâche, tu dois effectivement être modéré, mais savoir ne pas attiser les feux, mais tout en restant en fait conséquent, parce que en fait l'avenir va te juger.
Il faudrait savoir se donner quand même des lignes directrices. Et surtout quand on quitte de l'inconscience, à la conscience. Donc, ça veut dire que vous êtes en train aussi de modeler une audience. Donc, se connaître, l'exercice qu'il faudrait se faire, se connaître. Parce qu'il y a aussi parfois de la provoque. Hein. Ils savent que des commentaires peuvent venir de partout. Comme il le disait, il y a diverses parties prenantes qui voient votre poste. Il y a d'autres qui peuvent venir vous provoquer. Mais il faudrait garder la tolérance pour calmer le jeu, puisque vous savez au moins ce que vous voulez communiquer. Donc, si je me récapitule, je vais parler de la responsabilité, de la cohérence, de la crédibilité, parce que touchant même le droit de l'homme, on voit tout ce qui circule, mais si les gens s'identifient à vous, il faudrait vraiment porter cette charge et cette responsabilité.
Et on prend alors, moi je suis un peu partagé, et je vais dire les deux avis, justement sur le sujet et sur l'influence qu'on a dans cette crise. Oui, à un certain moment, dans l'état actuel des choses, je crois que oui, à un certain moment, il faudra qu'il y ait ceux qui bravent. C'est important. La lutte, elle se fait sur plusieurs fronts. Et on doit en être conscient. Ça, c'est clair. C'est que, à quel moment... parce qu'en fait, je n'ai jamais compris ce qu'on nous vend. En Afrique, on nous a trop vendu la paix. Au nom de la paix, tout le monde reste calme. Au nom de la paix, n'allez rien faire. Mais vous avez quand même la paix. On ne fait que nous vendre la paix. Parce que je n'ai jamais compris ce concept où, pourquoi si je dois aller dans la rue, c'est synonyme de mourir. C'est un bug, c'est bizarre. Et même ma propre mère va me dire, non, n'y va pas, parce que c'est synonyme de mourir. Oui, effectivement, si aller dans la rue, c'est synonyme de mourir, il faudra, je reste alors convaincu, c'est une thèse personnelle, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on ait des Lumumba et des Mandela ou de Gandhi, je peux dire. Alors, c'est une thèse que je peux défendre simplement parce que dans notre concept à nous, justement, le premier, il va tomber dans la bêtise normale parce que le policier, là, qui tue sa femme, souffre aussi. Donc, et le deuxième, pour avoir un peu de conscience, mais ça va rallier des gens. Parce qu'il faudra aussi dire, les gens s'allient à quoi? L'engagement dont on parle ici. Si à un moment, Mandela a drainé l'engagement, ça veut dire les gens commencent à se dire, oui, on s'identifie. Il peut aller dans la rue, il est mort pour nous, il peut faire ceci. Alors, à quel moment, et même sur la toile, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, sur la toile, on va subir, il faut faire très attention, beaucoup de jeunes vont le subir encore, ceux qui sont influenceurs. On va atteindre un point de non-retour où la toile va être refoulée. Parce que les gens vont se dire que vous n'êtes que sur la toile. Et l'action qu'on te demande, c'est ce que moi je ressens parfois, à quel moment les gens t'appellent pour te dire, mais Kaiser, tu dis quoi? Toi, c'est toi le leader, c'est toi. Mais là, oui, effectivement, moi, là où je fais le choix, c'est de se dire, je ne publierai pas ce que quelqu'un me demande de publier, je publierai ce que je publie, puisque je le publie depuis toujours, et je le publierai quand j'ai envie de le publier. Et j'assumerai le jour où je vais le publier. Ça ne marchera jamais d'aller dans la rue si on n'a pas compris le problème. Depuis un moment, on nous a tous pris les 50 francs, mais ça pose problème à personne. Le transport, c'était 450. Mais on a toujours payé 500, ça pose problème à personne. Si je ne vais pas dans la rue pour mes 50 francs, je réussirai jamais à aller dans la rue pour que Kabila parle. Moi, je trouve que l'influenceur sur la toile devrait plus faire un message qui est justement pas dangereux. J'en parlais à Arlène. Je dis oui, aujourd'hui, on peut parler de la politique, mais on peut faire la partie avant la politique. La partie éducation. Qui est la partie importante? Moi, je veux expliquer aux gens, je veux qu'on comprenne les 50 francs. Pourquoi je veux réclamer mes 50 francs? Si quelqu'un, si réellement la population a compris que sur les 50 francs, il y a l'arnaque, et c'est comme aujourd'hui, regardez la bêtise. On partage sur Facebook l'affaire du passeport, mais c'est un scandale. Ça devrait me faire plus une autre manière que l'affaire de Kabila. Moi, je m'en fous que Kabila reste. Mais le pourcentage, là, ce qu'on m'a pris sur le passeport, ce qu'on a pris sur le jeune Congolais. Pourquoi toi et moi, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de carte d'identité? Ça, c'est vrai, c'est là le vrai problème, c'est pas lui. C'est que si tu résous ça, tu vas atteindre un autre problème. Et justement, je crois que l'influenceur devrait rester sur ce segment-là, qui est pour moi ce que je définis comme un segment d'éducation.
Le printemps arabe nous a emmené tout ce vent qui a soufflé en Afrique. Mais à un certain moment, il faut qu'on essaie de faire le bilan. Parce que moi, je crois que le e-war, donc la guerre électronique, a commencé quand on a lancé le printemps arabe. Et il faut, à un certain moment, s'arrêter, faire le bilan. Même ce que vient de dire mon voisin, c'est important. Qu'est-ce qu'on vit? Bon, je parle de ma petite expérience en tant que conseiller, je conjugue ça dans le passé, en tant qu'ancien conseiller d'un responsable des institutions ici sur place. Il se fait que aujourd'hui dans la toile, quand il y a des publications, par inexpérience de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous lisent, tout ce qu'on balance est vrai. Surtout quand il y a des événements malheureux dans ce pays. On peut vous prendre des photos de ce qui s'est passé au Gabon, de ce qui s'est passé en Éthiopie, mais on dit que c'est en RDC et ça passe comme l'évangile. Si seulement vous essayez de vous constituer comme un groupe pour recadrer, vous êtes directement indexé et mal vu. C'est ce qui se passe, même entre nous les influenceurs. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont indexés, vous avez vous-même dit ici, qui est derrière toi. Parce que, attends, qu'est-ce qui... Et c'est vrai, il y a ceux qui sont influencés, mais il y a ceux qui le font aussi pour éviter à se piller bain de sang, qui le font avec leur propre volonté. En République démocratique du Congo, quand on parle de marche, surtout ici à Kinshasa, c'est pillage, c'est brûler des stations, c'est brûler des banques. Or, ce n'est pas ça en Europe. Ce n'est pas ça...
Oui, mais
tout dépend de ce qu'on casse. Aujourd'hui, s'il faut faire le bilan économique de ce qu'a coûté le pillage de 91-92, c'est le peuple qui en pâtit. Ce n'est pas les personnes qui dirigeaient à l'époque. On a parlé du Rwanda et moi je parle toujours du Kenya. Ce sont les deux seuls grands pays en Afrique où les leaders, les dirigeants sont sur la toile. Ici, moi j'ai géré les pages, les adresses électroniques des décideurs. Je vous dis, c'est vrai, vous pouvez vous mettre là pendant 15 minutes en train de faire un rapport sur ce qui se passe. Ils vont vous dire, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est bien triste, ça choque. Mais c'est ça, au fait, dans leur tête. Pourquoi ? Parce que le monde 2.0, pour eux, ça ne dit absolument rien.
Moi, je m'appelle Patricia Van Buto. Je suis dans la com et j'ai fait le journalisme. Je suis venue ici déjà par influence. Parce que j'ai lu le message sur la page Facebook de Passion, qui est un vieil ami. J'ai vu à très longtemps. Ce que je veux poser comme question s'adresse au monsieur à droite, donc par ici, qui nous demande de nous taire. Vous avez peur de quoi? Comme vous dites, un influenceur doit être modéré, savoir quoi dire, etc., etc. Vous avez peur de quoi quand vous voulez qu'on se taise? De toutes les façons, lorsqu'on parle, on est exposé à quelque chose. Moi, je pense qu'on a RDC, il faut parler. Il y a beaucoup à dire. Moi, je bois l'alcool. En ce moment, la bière est majorée. On achète la bière à 1600 francs congolais et personne n'ose parler. Et vous, les influenceurs, vous vous taisez, vous faites une conférence sur la politique au lieu de faire une conférence sur le quotidien du Congolais. Ce qui déstresse le Congolais, c'est lorsqu'on partage un pot en fin de journée sous un arbre. Maintenant, on n'arrive même plus à le faire. Et vous êtes là à faire une conférence pour parler de tension politique. Il n'y a pas de tension politique, le Real a gagné hier. Merci.
Je sais que par contre, ça...
Je suis Jean-Pierre Kaimbe, je suis responsable web à RTGA. Alors, je voudrais savoir que les panélistes nous disent à partir de quand un influenceur peut être qualifié de crédible. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est crédible quand on est critique, soit vis-à-vis du pouvoir. Quand on lance des messages, par exemple pour Kabila, on a tout de suite autant de messages. Mes posts les plus commentés, c'est quand j'ose dire quelque chose qui va dans le sens du poil. Et je me suis résolu de prendre ma retraite. Philippe a dit tout à l'heure qu'il n'est public quand il en a en vue et quand il sait ce qu'il dit sans être influencé. Mais il y a des gens, évidemment, qui voudraient mettre du paquet, qui voudraient profiter de votre mur pour faire passer un message.
Vous avez leur numéro?
Enfin, ici, j'ai parlé de mon expérience. Il y a de certains messages que je diffuse sur mon mur qui ne viennent pas de moi. Enfin, j'ai du pognon, je mets dans la poche, je balance, on m'insulte. Bon, je m'en fous. À un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais plus.
Il a partagé son expérience. On va terminer.
Alors, on va poser d'abord la question à Eugène Candolo, et ensuite, la question, la même, on la pose à Arlène Agnero. Et pour terminer, nous posons la même question à Philippe Kabeya.
En fait, ceux qui me connaissent savent que, en fait, la peur, ce n'est pas mon lot, et j'ai une certaine ligne qui est bien déterminée par rapport à l'opinion publique. Je ne demande pas aux gens de se taire, je ne le ferai jamais. Ici, je dis ceci, et j'ai bien dit la responsabilité, je prends sur mon exemple. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'influenceur dans ces contextes? Le message de la responsabilité, c'est juste savoir dire aux gens de faire la part des choses. Donc, on peut aujourd'hui dire qu'on est en désaccord avec quelqu'un sans l'insulter. On a parlé tantôt des anonymes et tout ça. Donc il faut dire une chose, il faut faire la différence entre un terroriste et un influenceur. Parce que dès lors déjà que par lâcheté, tu prends un nom qui n'est pas le tien, pour commencer à insulter par exemple le chef de l'État ou bien balancer des fausses images, c'est-à-dire que tu ne sais pas t'assumer d'abord en tant que personne. Comment tu peux être un influenceur mais qu'on ne parvient pas à t'identifier? Donc, soit tu es comme Anonymous. C'est des activités en fait terroristes. Donc, c'est comme ça que ça tombe à point nommé, qu'on fasse le guide en fait de l'influenceur pour savoir en fait limiter les choses et donner en fait une certaine compréhension cohérente autour en fait des concepts. C'est très important. Le marketing digital est avant tout marketing, avant d'être digital. Le digital n'est que le support. Si tu ne connais rien du marketing, ce n'est pas parce que tu connais les cours d'informatique et quelques programmations que tu deviens marketeur et tu t'appelles, je fais le marketing digital et tu animes des conférences. Non.
Au fait, il ne faudrait pas oublier qu'un influenceur, c'est une personne d'abord. Au fait, c'est quelqu'un qui a des habitudes, qui a un comportement. Un community manager, c'est quelqu'un qui suit des lignes directrices, qui peut porter des casquettes. C'est comme des masques. On te demande, en fait, telle personne peut se comporter comme ça, comme Philippe le disait, il a des lignes à suivre. Donc, ça peut sortir hors ce qu'il est vraiment. Parce que la preuve, il peut communiquer quelque chose, mais la personne de Philippe ne pouvait peut-être pas communiquer cela. Donc, il faudrait déjà faire la part des choses. Donc, savoir quand on porte la casquette ou le masque de vouloir communiquer derrière une page et lorsqu'on communique réellement pour son propre contenu. On influence des gens. Donc, en retour, l'influence est mesurable, comme Jeanne le disait. C'est qualitatif et quantitatif. Donc, c'est le retour que vous avez qui vous situe au fait, qui même construit votre notoriété et votre crédibilité. Parce que quand les personnes voient une information, viennent vous poser la question ou attendent de vous une réaction, ça veut dire qu'en soi, vous avez construit quelque chose avec eux. Donc, pour finir, je dirais, oui, on est d'abord, pour commencer, des modèles et le réseau social ou les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook sont que des supports. Donc, en étant support, ça nous aide à communiquer ce qu'on est, mais quand on est community manager, c'est pas pareil. Donc c'est un peu la différence qu'il faudrait faire. Et aussi je voulais souligner, c'est par rapport aussi à la cohérence que tu gardes, c'est l'historique que tu gardes. Parce que tu as parlé de Monsieur Willy a eu à souligner les Anonymous. Mais un jour, si tu dis des choses qui étaient fausses, comme ce que, je vais citer le nom, ce que Félix a fait, ça a heurté beaucoup de gens. Les gens sont restés, mais attends, le gars a menti, mais pourtant nous on s'est engagé parce qu'il a eu à écrire cela sur sa page qui avait une certaine crédibilité. Donc les gens commencent maintenant à peser ce qu'il dira, même des raisons. Ça peut dire l'historique que vous construisez, c'est une vie. C'est pas parce que vous mentez et puis les gens vont devenir amnésiques. C'est vous qui avez menti. Donc attendez-vous qu'on soit plus critique envers vous que quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il y a des influenceurs négatifs et positifs. Vous-même, vous l'avez dit, il y a des mauvais et des bons, même dans la vie. C'est pas le virtuel qui change tout ça où tout le monde est ange là-bas.
Il y a quelque chose quand même qui est assez bizarre. Moi je pense qu'aujourd'hui, hein, pour parler de l'exemple, on a l'impression que la toile s'est radicalisée, mais c'est faux. Sur la toile, on peut tout dire. Il y a des pros, il y a des pros Yebela, il y a des pros Mela. Aujourd'hui, quand tu viens sur la toile pour dire, par exemple, que le Congo va bien, et que Kabila est le meilleur, ou je ne sais pas moi quoi, tu vois, à un moment, je crois qu'il y a l'exercice et les mots utilisés peut-être posent problème. Alors que tu aurais pu passer le même message, il y a tellement de choses que le gars fait qui sont bien aussi, hein. Mais est-ce qu'on le passe, le message comme ça? Peut-être pas. Tout communicateur en public n'est pas si libre que ça. Obama, quand il prend le pouvoir, il a des problèmes directement avec sa garde, parce qu'à cause de son BlackBerry, ce genre. Les musiciens congolais, aujourd'hui, les pauvres, n'ont fait que subir ça. Ils ont subi le simple fait que nous avons estimé que eux, à leur position, avaient plus de pouvoir que nous. Donc, comme ils ne l'ont pas fait, on va les punir. Alors qu'ils avaient le droit, ils ont le droit de ne pas le faire. Mais seulement dans le contexte, et ça c'est le problème aussi, on est en train d'y arriver, c'est le problème des influenceurs aujourd'hui dans le digital. Oui, demain, on risque d'avoir le même problème. À quel moment la population va dire, mais jeune, nous on ne veut plus dépenser de Maxwell sur ta page. Non, parle-nous de nos vrais problèmes. Pourquoi tu dis rien sur ça? Donc soit tu prends ça, soit tu es éliminé. On va aussi subir la moutakalisation des influenceurs en disant, mais non, les jeunes n'en ont le bas, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Effectivement, on peut subir ça. Donc, à un certain moment, ça se fait presque, oui, voilà. Donc, à un certain moment, c'est une position délicate et difficile. Et franchement, à la Réunion de Paris, il y avait même un influenceur qui l'a dit, presque pour crier ça en disant, mais je n'ai pas demandé d'être influenceur. Parce que moi, il m'arrive même à moi, des gens qui me disent « Non, mais tu ne peux pas parler de ça parce que... » Non, à un moment, je règle les problèmes comme je les règle. C'est tout, un point, c'est tout. Je ne vais pas les régler comme un influenceur. Je ne suis pas influenceur, enfin, je ne suis pas né influenceur. Ce n'est pas une identité, l'influence, c'est l'impact qui est défini. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas une profession. Et quand vous êtes payé, on est dans un cadre de travail et c'est autre chose. Et ces gens-là, aujourd'hui, la plupart de ces influenceurs ont des pages à eux et une page influenceur professionnel parce que c'est sa profession.
Et ça sera la fin donc de ces cafés presse. Merci évidemment d'avoir répondu présent à cette édition des cafés presse. Nous sommes très très contents d'avoir été avec vous. Merci également d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On espère que ces numéros des cafés presse vous a permis et permettra en fait à beaucoup d'entre vous de pouvoir exercer sur la toile sans avoir peur, mais avec beaucoup plus de responsabilité. On se retrouve très bientôt, même programme la semaine prochaine avec un autre thème.